Radio France Internationale, 5h à Paris, 4h en temps universel. Marion Cazeneuve, bonjour.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
Votre journal d'abord est à la une, ces massacres en Syrie contre la minorité alaouite.
Près de 1000 civils tués en 4 jours dans l'Ouest. Une ONG parle d'exécution sommaire et de nettoyage ethnique. RFI a obtenu le témoignage d'une jeune alaouite qui décrit des meurtres de sang-froid dans son village. La guerre commerciale de Donald Trump et la réponse de la Chine avec l'entrée en vigueur aujourd'hui de taxes douanières sur des produits américains. Alors que le Canada et le Mexique, eux, bénéficient toujours d'une trêve dans l'application de ces droits de douane. Au Gabon, seuls 4 candidats jugés aptes à se présenter à la présidentielle d'avril sur les 23 dossiers déposés. Les candidats recalés partagent leur colère, certains comptent déposer un recours. Et puis le roi Charles III, amateur de disco et de R&B, à l'occasion de la journée du Commonwealth, il partage ses morceaux de musique préférés avec des goûts très variés, on le verra. Le bilan s'alourdit. En Syrie, 973 civils ont été tués en 4 jours, selon l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui parle d'exécution sommaire et de nettoyage ethnique. L'ouest du pays, bastion de la minorité alaouite, est secoué depuis plusieurs jours par des combats entre les forces de sécurité et des partisans du président déchu Bachar al-Assad, qui est lui-même issu de la communauté alaouite. Et des civils sont donc aussi pris à partie. RFI a recueilli le témoignage d'une jeune alaouite de la région de Jablé. Elle décrit des massacres perpétrés par des hommes armés dans son village. Le récit d'Oriane Verdier et Nicolas Falaise.
Elle s'appelle Yara, elle a 30 ans, elle est alaouite et vit dans un village de la côte syrienne. Le témoignage enregistré qu'elle nous a fait parvenir détaille avec précision les événements survenus jeudi et vendredi dernier. D'abord les rumeurs d'affrontements dans un village voisin, puis la visite de membres des forces de sécurité syriennes à la recherche de jeunes hommes du village. Le lendemain, vendredi 7 mars, des incendies sont allumés aux abords du village. Yara raconte l'arrivée d'assaillants armés. Nous avons vu des civils fuir et courir, craignant pour leur vie, dit-elle. Ils tuaient des gens de sang-froid, soit en les égorgeant, soit en leur tirant dessus. Tout le monde a été tué, y compris des jeunes, des femmes, des enfants et des personnes âgées. Parmi les victimes, le père de la jeune femme. Ils l'ont appelé, nous dit-elle, et lui ont dit de regarder la caméra, puis ils lui ont tiré dessus. Il n'est pas mort immédiatement, alors ils lui ont encore tiré dessus. Ils nous tuent simplement parce que nous sommes alaouites. Nous n'avons fait de mal à personne et nous n'avons pas d'armes. Yara explique que les assaillants ont ensuite rassemblé les femmes, sa mère, sa sœur, elle-même, mais que les hommes armés sont finalement repartis sans les tuer. Yara évoque son village après l'attaque. Plus de nourriture, plus d'eau, plus d'électricité. Nous ne pouvons pas enterrer nos morts, dit-elle. Elle conclut son témoignage par ces mots. Ils nous ont tués comme des insectes, comme si nous n'étions rien. Et ils rigolaient.
Le président syrien par intérim, Ahmed al-Shara, promet de poursuivre tous ceux impliqués dans l'effusion de sang des civils. De nombreux pays et organisations ont condamné ces tueries dans l'ouest syrien, comme l'ONU, les États-Unis, la Turquie ou encore le Royaume-Uni, également l'administration kurde. Toujours au Proche-Orient, de nouvelles négociations pour poursuivre la trêve entre Israël et le Hamas, négociations indirectes au Qatar et qui se compliquent d'entrée puisqu'Israël a décidé de couper l'électricité à Gaza. Israël met ainsi la pression sur le Hamas pour un retour des otages. Le Hamas dénonce un chantage inacceptable. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu, lui, en Arabie Saoudite aujourd'hui, avant demain, une rencontre entre une délégation de Kiev et une équipe américaine pour discuter de futures négociations de paix avec la Russie. Cette nouvelle étape à présent dans la guerre commerciale lancée par le président américain, la Chine répond aux droits de douane imposés par Donald Trump avec des mesures similaires qui viennent d'entrer en vigueur. Plusieurs produits agricoles, le soja, le porc ou encore le blé américain sont désormais surtaxés en entrant sur le sol chinois. Pékin, dont les exportations pâtissent déjà des mesures imposées par Washington. Agnieszka Kumor.
Fortement mécontente, la Chine taxe à son tour certains produits agricoles américains. Une mesure allant jusqu'à 15%. 15%, suffisamment modéré pour laisser encore possible un accord commercial. En effet, les tensions commerciales avec les États-Unis s'ajoutent aux difficultés rencontrées par les autorités chinoises dans leur tentative de stabiliser l'économie du pays. Après avoir frappé début février tous les produits venant de Chine des droits de douane supplémentaires de 10%, Donald Trump a décidé de les porter à 20% lundi dernier. Certes, la Chine présente toujours le plus important excédent commercial avec les États-Unis, mais les mesures imposées par Washington pourraient finalement porter un coup sévère aux exportations du géant asiatique. Alors qu'elles ont largement contribué à la croissance du pays l'an dernier, les exportations chinoises ont progressé en janvier et février de seulement 2,3% sur un an contre 10,7% en décembre.
Anish Kakumor, nous ne pouvons laisser Trump gagner. Les premiers mots de Mark Carney, le nouveau Premier ministre canadien. Il a été désigné hier par le parti au pouvoir et succède ainsi à Justin Trudeau qui avait annoncé sa démission le mois dernier. Il estime que le Canada va devoir bâtir une nouvelle économie et créer de nouvelles relations commerciales face à la guerre commerciale lancée par son homologue américain. Une trêve est toutefois en vigueur pour l'instant puisque Washington a suspendu l'application de ses taxes douanières pour le Canada et le Mexique. Au Mexique, justement, la présidente se félicite de ce répit et du dialogue qu'elle a réussi à mettre en place avec son voisin pour éviter, du moins pour un temps, ses droits de douane. Claudia Sheinbaum a pris la parole hier lors d'un rassemblement à Mexico, Wendolina Duval.
Une marée de drapeaux s'est déployée sur l'immense place de la Constitution. Face à des dizaines de milliers de Mexicains venus la soutenir, la présidente Claudia Sheinbaum s'érige comme la protectrice des intérêts du peuple. Dans la foule, Virginia Revendis arbore une casquette dont l'inscription célèbre la souveraineté nationale.
Claudia Sheinbaum s'est donnée à 100% dans la lutte avec le président des États-Unis. C'est une fierté car elle va nous défendre, coûte que coûte.
La stratégie de la présidente consiste à négocier avec la nouvelle administration américaine, sans opposition frontale. À deux reprises, elle est parvenue à repousser les tarifs douaniers voulus par Donald Trump qui auraient de fortes conséquences sur le pays. Entre deux slogans patriotes, Sarah Thatcher scande une phrase empruntée à la présidente, « Le Mexique se respecte ».
Elle n'a pas été faible, elle nous défend et est tout à fait à la hauteur. De l'autre côté, ils essayent de la déprécier, mais ici, elle a le soutien de tout le peuple.
Forte d'une popularité dépassant déjà les 80% d'opinions favorables, Claudia Sheinbaum ressort encore grandie à chacun de ses échanges avec son homologue américain, selon cette Mexicaine Maria de la Paz.
C'est une excellente leader, comme nous n'en avions jamais eu dans notre pays. Nous sommes très contents car maintenant on regarde le Mexique sous un nouveau jour.
Pour autant, l'économie mexicaine reste sous la menace de Donald Trump, car il prévoit toujours d'instaurer des frais de douane à partir du 2 avril. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
En Argentine, le président Javier Milei vient de décréter 3 jours de deuil national. Après des inondations meurtrières dans le pays, au moins 16 personnes sont mortes, 1000 autres ont été évacuées après une tempête qui a frappé la ville portuaire de Bahía Blanca vendredi. Ces inondations ont causé pour environ 370 millions de dégâts, selon le maire de la ville. RFI 5h08 à Libreville, au Gabon. Sur les 23 dossiers de candidature déposés pour la présidentielle du 12 avril, seuls 4 ont été jugés aptes. Il s'agit du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, d'Alain-Claude Billy Binzé, le dernier Premier ministre d'Ali Bongo, du médecin Stéphane Germain Iloco, un ancien cadre du PDG, et Joseph Lapensée et Sigone, juriste inspecteur des impôts. Ceux dont les dossiers n'ont pas été retenus ont jusqu'à mercredi pour faire un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Et pour le moment, c'est l'incompréhension et même la colère chez certains recalés. À Libreville, Yves-Laurent Goma.
Marlène Essolaï Futaman est l'une des 3 femmes à avoir déposé un dossier pour la présidentielle. Sa candidature a été recalée. Selon elle, ce rejet s'explique par une constitution et un code électoral taillé pour le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema.
Nous attendons de voir la Cour constitutionnelle du Gabon prendre ses responsabilités pour enfin dire le droit, rien que le droit.
La candidature de Jean-Rémy Yama n'a pas non plus été retenue à cause de l'absence de l'acte de naissance de son père. Le syndicaliste dénonce une mascarade et précise que sur son propre acte de naissance, il est mentionné que ses 2 parents sont gabonais. Recalé également, Pierre Claver Maganga Moussavou, l'ancien vice-président de la République, est âgée de 72 ans, alors que la Constitution a introduit une limite d'âge à 70 ans pour se porter candidat. L'ancien député Alain Simplice Bungwere, dont le dossier a été également rejeté, espère que son recours devant la Cour constitutionnelle sera entendu.
Je ferai un recours auprès de la Cour constitutionnelle dont je suis conscient qu'elle répondra favorablement à ma demande car mon dossier n'est entaché d'aucune irrégularité.
Le journaliste Jean-Romain Fanguinoveni, candidat en 2023, déplore de son côté l'inflation du montant de la caution exigée pour postuler à la présidentielle. Une caution qui a manqué à de nombreux dossiers de candidature. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
C'est une première en France. L'éducation nationale est impliquée dans un procès pour harcèlement scolaire. Une enseignante se retrouve aujourd'hui face à la justice. Elle est accusée de harcèlement moral sur une collégienne qui s'est suicidée en 2019. Baptiste Coulon.
Devant les enquêteurs, elle dit être cash, exigeante, mais certainement pas rabaissante. L'audition des témoins raconte pourtant une autre histoire, celle d'une professeure de français qui n'hésite pas à humilier, voire insulter toujours les mêmes élèves, ceux en difficulté. Evaëlle, en classe de 6e, est décrite par ses parents comme forte et fragile. Elle est dans le viseur de l'enseignante, alors qu'elle subit déjà des moqueries et des violences de la part d'autres élèves. Un matin, sa professeure organise 2 heures de vie de classe, pas vraiment comme les autres. Evaëlle est au centre des discussions. Debout face à ses camarades, l'enfant de 11 ans doit expliquer pourquoi elle se dit harcelée. La séance tourne à l'humiliation, elle pleure, la professeure lui dit d'arrêter. « C'est la pire journée de ma vie », dira-t-elle à ses parents. Désormais, l'enseignante l'isole au fond de la classe, refuse de la changer de place malgré ses problèmes de vue. Pour ses parents, aucun doute, ce comportement est perçu par les autres élèves comme une autorisation à s'en prendre à leur fille. Evaëlle se suicide 3 mois après avoir changé d'établissement. Le protocole anti-harcèlement mis en place n'a pas empêché le drame. Quant à la direction du collège, elle a toujours fait bloc derrière l'enseignante qui n'a jamais reconnu les faits de harcèlement.
Et l'enseignante risque jusqu'à 3 ans de prison. On revient sur cette affaire plus largement dans le reportage France. Tout à l'heure dans RFI Matin, reportage à écouter un peu après le journal de 5h temps universel. Nous sommes le deuxième lundi du mois de mars et comme tous les ans, cette journée marque le jour du Commonwealth, une célébration de cette organisation culturelle héritée en grande partie de l'empire colonial britannique et qui rassemble 56 États. Pour l'occasion, le roi Charles III lance un podcast un peu spécial où il dévoile des goûts musicaux éclectiques. Emeline Vin.
Le tube de Bob Marley, Could You Be Loved, repris par la garde royale sous les fenêtres de Buckingham Palace, c'est ainsi que Charles III a fait la promotion de son podcast The King's Music Room, diffusé ce lundi par Apple Music. Dans ce programme, Sa Majesté devrait rendre hommage aux artistes du Commonwealth qui figurent sur sa playlist. Il a déjà fait allusion à l'Australienne Kylie Minogue, à l'Américano-Nigérian Davido et à la nouvelle star de la Britpop, Rai. Apple n'a pas dévoilé la liste complète en amont. Le roi devrait accompagner chaque morceau de commentaires et d'anecdotes personnelles. Dès la bande-annonce, Charles III indique que la musique a toujours joué un grand rôle dans sa vie, lui rappelant de bons souvenirs ou l'accompagnant dans les moments difficiles. C'est la première fois qu'un monarque participe à une émission de radio ou un podcast de ce genre, une manière intéressante et novatrice selon lui de célébrer la journée du Commonwealth, alors que plusieurs membres de l'organisation envisagent de s'éloigner du Royaume-Uni, voire de renoncer à Charles III comme chef d'État. Emeline Van Londres, RFI.
RFI 5h13 à Paris, 4h13 en temps universel. On reste ensemble pour un tour de l'actualité internationale avec nos chroniques.
Marion Cazanov.
On parlera de ces centres d'arnaque en ligne, usines clandestines en Asie du Sud-Est qui font travailler de gré ou de force une main-d'œuvre exploitée, victime de violences. RFI a obtenu le témoignage d'un rescapé de ces réseaux criminels. On verra aussi avec notre correspondant à Bangkok comment coopèrent les pays de la région pour rapatrier ces cyber-esclaves. L'invité culture de RFI ce matin est l'humoriste Caroline Estremo, ancienne infirmière. Elle aborde dans son dernier spectacle ses moments de vie les plus intimes avec beaucoup d'autodérision. Dans le conseil santé, on verra qu'il vaut mieux arrêter de scroller. On fera ensuite un tour dans la playlist musicale de RFI, tout cela avant le retour de l'actualité africaine. En Asie du Sud-Est, des milliers de personnes sont exploitées pour mener des arnaques en ligne. Ces travailleurs sont souvent enlevés, forcés à travailler 18 heures par jour dans des centres d'escroquerie tenus par des groupes mafieux. Ces cyber-esclaves, comme on les appelle, subissent aussi des intimidations, des violences. Après l'enlèvement d'un acteur chinois en Thaïlande, une coopération entre plusieurs pays vise désormais à démanteler ces réseaux. Cléa Broderst et Che Xiangyuan ont discuté avec Su, l'un des rescapés de ces centres.
Une fois arrivé dans le centre, Su explique qu'il travaillait sans arrêt tous les jours de 10h30 à 2h du matin et que tout était étroitement contrôlé.
Chaque personne recevait un ordinateur et quatre téléphones Apple équipés de cartes SIM birmanes, tous d'occasion. Là, on créait des comptes Gmail, puis Facebook, Instagram. On gérait 20 comptes chacun. Il y avait 14 équipes et projets de fraude. L'équipe dont je faisais partie se concentrait sur la crypto-monnaie. Des personnes pouvaient transférer leur monnaie locale sur la plateforme d'échange OKX, qui est reconnue internationalement, sauf en Chine continentale, où elle n'est pas autorisée. Après avoir transféré de l'argent, elle pouvait utiliser des dollars américains pour acheter des crypto-monnaies. L'objectif ultime restait de guider le client dans son investissement. Il n'y avait pas de script fixe, juste quelques tactiques générales.
Su raconte que de nombreux Chinois étaient enfermés dans ces camps et que le flot d'arrivées ne cessait jamais. Tous les jours, dit-il, on venait sélectionner certains individus.
Si vous n'étiez pas choisi dans les 30 jours, ils vous emmenaient dehors dans un véhicule à Miawadi ou la frontière thaïlandaise pour se faire prélever les organes. Deux reins pouvaient se vendre 500 000 yuans. Si vous étiez jugé qualifié, ils vous exploitaient au maximum. Si vous n'étiez pas sélectionné, ils vous forçaient à déverrouiller votre téléphone en scannant votre visage. Ils chargeaient votre téléphone, le connectaient au Wi-Fi et utilisaient votre visage pour accéder à des applications chinoises telles que WeChat, Alipay et des cartes bancaires pour transférer le plus d'argent possible.
Ceux qui résistaient étaient sévèrement punis, raconte-t-il.
Le premier jour, les gardes ont tiré sur 11 personnes dans la cour. 4 sont mortes sur le coup, les 7 autres étaient encore en vie. Là, ils ont trouvé une autre victime qui prétendait être vétérinaire en Chine continentale et lui ont demandé d'extraire les balles sur leur corps. Le processus était diffusé en direct sur Telegram. Ils nous montraient aussi des vidéos d'autres centres d'escroquerie pour nous montrer des gens se faire punir. Ils utilisaient de l'eau bouillante pour la verser sur les orteils de quelqu'un, puis pliaient les articulations en arrière. Et tout était diffusé en direct via des comptes Telegram et WeChat. Ils utilisent cela comme une forme d'intimidation, en particulier ceux qui viennent d'être vendus. C'est une façon de donner l'exemple, à la fois pour les personnes sur place et pour les autres qui participent à différentes opérations frauduleuses et qui regardent la diffusion en direct. C'est ce genre de choses qui fait que les gens craquent complètement après y avoir passé un certain temps.
La famille de Su a réussi à négocier son retour en Chine après avoir en tout payé près d'1 million de yuan, soit près de 130 000 euros. Cléa Broderst, Che Xiangyuan, Pékin, RFI.
Et plusieurs pays coopèrent donc pour démanteler ces réseaux criminels dont les centres d'arnaque se trouvent pour la plupart en Birmanie. Le pays voisin, la Thaïlande, redouble d'efforts dans cette lutte. On retrouve à Bangkok notre correspondant Valentin Sébron. Valentin, c'est par la Thaïlande que sont rattrapés, que sont rapatriés notamment des centaines de Chinois qui avaient été employés de gré ou de force.
Hier encore, la télé thaïlandaise a diffusé les images d'un groupe de 150 individus embarqués sur un vol à destination de Nanjing, en Chine. Ils font partie des 1500 Chinois que Pékin a rapatriés la semaine dernière via la Thaïlande. Depuis fin février, des avions affrétés par Pékin transportant des ressortissants chinois décollent quasi chaque jour de Mae Sot, ville frontière thaïlandaise à l'ouest du royaume. Car avant d'être libérés, beaucoup étaient retenus juste en face, côté birman à Miawadi. C'est là que des centres de cyberarnaque tenus par des groupes criminels chinois profitant du chaos de la guerre ont proliféré ces dernières années avec la connivence de la dictature militaire en Birmanie.
Et sur les 10 000 individus récemment libérés de ces centres de cyberfraude par une milice birmane alliée à la junte birmane sous la pression de Pékin, tous ne sont pas des ressortissants chinois.
Tout à fait, même si une grande majorité d'entre eux sont de nationalité chinoise, il y a aussi des Vietnamiens, Indiens, Éthiopiens, Pakistanais, Kenyans, Malaisiens. Beaucoup ont été bernés par une fausse offre d'emploi avant d'être détenus, puis forcés d'arnaquer des inconnus sur les réseaux sociaux à longueur de journée, sous peine d'être battus, torturés, voire pire. Des deux côtés de l'écran, les victimes viennent du monde entier.
Et en ce moment, 7000 rescapés étrangers de ces camps de travail forcé en Birmanie attendent toujours d'être rapatriés, Valentin.
Oui, ils sont entassés dans des campements surpeuplés côté birman, administrés par une milice armée. Des conditions insalubres qui inquiètent les ONG. Bangkok, de son côté, a déclaré être en lien avec les pays de ses ressortissants étrangers pour accélérer leur rapatriement. La Thaïlande, qui a longtemps toléré l'existence de ces centres d'arnaque en ligne, de l'autre côté de sa frontière avant de réagir tardivement, est aujourd'hui mise à rude épreuve. De l'autre côté du pays, à l'est, les autorités thaïlandaises ont évoqué la possibilité d'ériger un mur à la frontière avec le Cambodge, où cette industrie criminelle sans pitié est également bien implantée. Il y a quelques jours, une gamine thaïlandaise de 14 ans a été secourue d'un centre de cyberarnaque cambodgien.
Valentin Sébron, correspondant de RFI à Bangkok. Notre invitée culture ce matin est une humoriste, Caroline Estremo, ancienne infirmière aux urgences de Toulouse. Elle a troqué sa blouse pour la scène en 2017 après une vidéo virale sur son quotidien de soignante. Dans son nouveau spectacle, Normalement, elle raconte avec humour et autodérision surtout comment elle a quitté son mari pour sa meilleure amie après 6 mois de mariage et le tsunami que ça a déclenché dans sa famille. Caroline Estremo est au micro d'Elisabeth Le Quéré.
Caroline Estremo, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous faites du stand-up et vous produisez presque chaque soir dans une nouvelle salle. Je crois que tout ça a commencé en 2016.
Oui.
Par une vidéo.
Exactement. Ça commence en 2016 où je balance une vidéo sur les réseaux sociaux sur mon quotidien d'infirmière qui en fait fait le buzz.
Mais bon, les urgences, c'est pas trop ce qu'on croit. C'est pas du House, du George Clooney, du Grey's Anatomy. Non, les urgences, c'est plutôt... Oui, voilà, je viens vous voir parce que je suis inquiet. J'ai des boutons sur l'ensemble du corps et ça me gratte fortement. Oui, donc ça, manifestement, monsieur, ce sont des boutons de moustiques, voilà.
Et puis de là, ben, on me contacte pour écrire un livre, on me contacte pour écrire un spectacle. Moi, je dis ok, hein, je suis pas contrariante. Et en fait, ben, je fais mes premiers pas sur scène avec mon spectacle sur les infirmières en avril 2017, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ben, une fois que j'y suis, ça me plaît. J'ai mal au ventre, hein. Alors qu'est-ce que ça me plaît? Et puis voilà, et en fait, vu que ça prend, je me dis, ben, pourquoi pas, tentons.
Caroline Estremo, vous le disiez, vous avez tellement aimé la scène que vous avez écrit un deuxième spectacle de stand-up, ça s'appelle Normalement, ça se joue en ce moment dans la France entière, et vous racontez comment vous avez quitté votre mari pour une femme. Oui. Et vous le racontez comme si c'était une série de Netflix.
Mais parce que c'est le cas, c'est incroyable. C'est pour ça que je voulais le raconter, pour dire à tout le monde que c'était possible en fait. On avait le droit, on a le droit et on peut changer de voie, que ce soit en amour, professionnellement ou autre. Et c'est ce que raconte mon spectacle.
Et dans ce spectacle, vous racontez que le tsunami que ça a été, ce que ça a provoqué dans votre famille et belle famille. Ouais. Comment vous l'avez approché, ce spectacle? Parce que dans le premier, vous parliez de votre métier, mais là, vous entrez carrément dans l'intime. Ouais.
Bah, je me suis dit, sois sincère. Il y avait quand même un petit bémol, j'avais peur de ma belle-famille. Comme ça, c'est très mal passé. Donc, j'ai demandé à ma belle-mère, je lui ai dit, est-ce que tu veux lire le spectacle avant? Elle m'a dit, non, il faut que tu sois vraiment sincère et que tu racontes ce qui s'est passé. Parce que si ça peut aider d'autres familles à mieux réagir que nous, fonce.
Votre belle-mère, Marielle, qui est donc un personnage très important du spectacle.
Bah oui, parce que je lui ai toujours dit, écoute-moi bien, je suis bien amusée à me venger, mais avec bienveillance.
Caroline Estremo, est-ce que le spectacle permet de prendre une forme de distance?
Je sais pas. Oui, peut-être. En tout cas, ça donne l'impression que tout est possible.
Comment on pourrait définir le rapport que vous avez avec le public?
Moi, ce que je voulais faire avec ce spectacle, c'est vraiment de créer la sensation qu'on passe une soirée entre potes. Et j'avoue que plus je suis moi, mieux ça connecte. Et ça fait juste passer une soirée super cool, autant pour eux, je l'espère, que pour moi.
Et qu'est-ce qui vous fait rire dans la vraie vie?
Non mais tout me fait rire, c'est ça le problème, c'est que tout me fait rire. Je suis vraiment capable, je le dis souvent, mais c'est vrai, je suis capable d'avoir un fou rire à l'enterrement. La moindre chose me fait rire, ou en tout cas si elle me fait pas rire, je trouve le moyen de me faire rire. Donc voilà, ouais je sais c'est un peu, mais je suis accro à la dopamine, tout ce qui finit en in, et voilà, les endorphines. Et donc moi j'aime rire de tout, voilà. Et tant que je pourrais faire ça, ce sera super bien.
Caroline Estremo, merci beaucoup.
Merci à vous.
Caroline Estremo avec Elisabeth Le Quéré, l'humoriste, et son spectacle Normalement est en ce moment en tournée dans toute la France. Il est 5h24 à Paris.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
Et avec Caroline Paré, aujourd'hui on parle de l'addiction au smartphone.
Docteur Alain Toledano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cancérologue, directeur de la chaire de recherche en santé intégrative au Conservatoire des Arts et Métiers à Paris. Quand on parle d'usage problématique d'un smartphone, de quoi s'agit-il ?
C'est le fait d'utiliser de façon excessive son smartphone, de façon compulsive, sans contrôle, avec un besoin irrésistible de se connecter. C'est 7 personnes sur 10 qui ont été interrogées et qui n'arrivent pas à s'en passer.
Vous êtes médecin, ça peut avoir quoi comme conséquence pour la santé ?
Des conséquences sur la santé mentale, altération des relations avec l'autre, un sentiment d'insécurité, de l'anxiété, de la dépression, une perte d'autonomie, mais également des troubles musculo-squelettiques, des troubles visuels, une baisse du sport et avec une augmentation du risque cardiovasculaire. Ça dépend de l'usage qu'on en fait.
Est-ce que les gens ont vraiment conscience que ce petit objet a priori anodin, eh bien il peut justement comporter de tels risques ?
L'objet a évolué. Au début, on utilisait des téléphones et puis c'est devenu des réveils. Puis c'est devenu des calendriers, des ordinateurs. Et finalement, on a tout rassemblé dans un même objet qui, en plus, nous procure du plaisir. Et on se rend plus compte de tout ce que ça fait.
Ça veut dire que ça peut être pratique, mais c'est pas forcément aussi anodin que ça en a l'air.
Ça peut être pratique, mais nous donne accès au monde par Internet. Et il y a des pratiques qui commencent à être problématiques avec des usages excessifs.
Merci docteur Alain Toledano. Aujourd'hui dans Priorité Santé, on parle de l'épilepsie chez l'enfant, dépistage, prise en charge, lutte contre la stigmatisation et ajustement des traitements pour limiter la survenue des crises. Priorité Santé, c'est à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
À tout à l'heure, Caroline Paré. Vous retrouvez toutes nos chroniques sur notre site rfi.fr. Vous les réécoutez aussi sur notre application Pure Radio. Dans un peu moins de 5 minutes maintenant, c'est le retour de l'actualité africaine. Une demi-heure d'infos avec Sébastien Duhamel. En attendant, nous, on fait un tour dans la playlist musicale du mois de RFI. On écoute ce titre, Old Soldier, un titre de Kelpie avec Van de Kool.
Them say one day two today.
It's Kelpie vibes.
Tell them, give them, let them, not them, for them, my gift for them, not them, buy them, them talk, tell them, give them, not them, buy them, not them, not them. Old soldier no go die unless to Badaru go. Old soldier no go die unless on duty. Old soldier no go die unless to Badaru go. Old soldier no go die. Eh. I dey look and laugh them, oh, them minority. I dey look and laugh them, them minority. I dey look and laugh them, oh, the seniority. I dey look. Ooh. Tell them, give them, not them.
I don't look and laugh them, oh, blessing them.
Et ce titre, Old Soldier de Kelpi et Van de Kol, que vous retrouvez en ce moment dans la playlist du mois de RFI. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à Michael Verne et à son énergie folle pour la réalisation de cette édition. La suite sur RFI, c'est l'actualité africaine avec Sébastien Duhamel. Tout cela avant le début d'RFI Matin. Andréane Mellard arrive à 5h, temps universel.
Bonjour, je suis Dougal Kemp. J'ai participé au concours RFI Instrumental l'année dernière. Et ce que vous entendez en fond, c'est la musique qui m'a permis de gagner le premier prix. L'édition 2025 est lancée. C'est à votre tour de jouer.
RFI invite les monteurs et les compositeurs du monde entier à participer à la 9e édition du prix RFI Instrumental. Inscrivez-vous avant le 21 mars sur rfi-instrumental.com/fr/prix. En partenariat avec l'INA, Adobe et Aprime Publishing.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Elle a réalisé son rêve d'enfant, devenir une championne de tennis, noire dans l'Amérique ségrégationniste. C'est l'histoire d'Althea Gibson, qui a précédé Arthur Ashe ou les Sœurs Williams. Le roman graphique White Only nous la raconte. Ses auteurs seront avec nous.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.